bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes dans la joie toujours quand nous sommes ensemble pour louer notre Seigneur Jésus. C'est lui qui mérite la louange. C'est lui qui mérite la gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous dans notre vie. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des Hébreux, chapitre 12 et le verset 14. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Notre prédication ce matin est titrée « Avez-vous trouvé la paix et la sanctification ?» C'est une question dont la réponse concerne chacun de nous ce matin. Avez-vous trouvé la paix et la sanctification ? Et l'homme s'adonne toujours à la recherche des choses périssables au détriment de celles qui restaurent, qui consolent, qui fortifient et qui sauvent. Nous sommes en face de deux exhortations impératives. C'est-à-dire, ce n'est pas une volonté de prendre ou de ne pas prendre, c'est une obligation. Rechercher la paix. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. En paix avec tous. C'est très difficile, hein? Pour être en paix avec tous. L'incompréhension de toutes sortes, les besoins sont différents. Comment peut-on être en paix avec tous? La paix était une façon de s'allier. Shalom. Hein? Les chrétiens d'avant nous, ils disaient « Shalom alaram, la paix soit avec vous. » Et Jésus, après sa résurrection, se présentait devant ses disciples et dit, « La paix soit avec vous. » C'est une façon de les saluer. C'est une façon de se présenter devant ses disciples, selon Jean chapitre 20, verset 19. Paul aussi avait utilisé cette méthode pour saluer les églises. Les églises de Corinthe, de Galates, d'Éphèse, de Philippe, de Colosse, de Thessalonique. Il utilisait aussi cette méthode pour saluer Timothée, Tite et Philémon. Et si vous avez du temps chez vous, remarquez que chaque premier chapitre de ces livres commence par « Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. » Parce que tout le monde en a besoin. C'est le Seigneur qui seul peut donner la paix. C'est le Seigneur seul qui peut nous procurer la paix. Et voilà pourquoi que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, c'est une nécessité. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que nous ne pouvons pas trouver la paix ailleurs. Nous ne pouvons pas faire la paix avec tout le monde si nous n'avons pas la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ. Il est notre paix et cette paix a été accomplie à la croix. Regardons ce que Ésaïe a dit dans Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus dit à ses disciples, dans Jean chapitre 14, verset 26, « Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je vous la donne pas comme le monde donne. Parce que le monde veut donner la paix avec des âmes massives, des âmes destructives. Mais l'Éternel, notre Dieu, il donne la paix avec sa parole. Si vous avez la foi en Dieu, vous avez la paix avec Christ. Mais les âmes ne peuvent pas donner la paix. Ça fait longtemps. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. On régnait. Le monde est toujours en guerre. On ne peut pas faire la paix avec les autres si on n'est pas en paix avec soi-même. C'est très difficile. David, dans Psaume 4, verset 9, il dit, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ma demeure peut être là où nous habitons, notre maison, mais la demeure, c'est notre cœur aussi. Parce que si nous n'avons pas la paix dans notre cœur, comment pouvons-nous faire la paix avec les autres? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans un monde troublé, bouleversé par l'insécurité, le déchirement, l'insatisfaction de toutes sortes, dans ce monde bouleversé par les terroristes, aujourd'hui, on a peur partout où l'on est, on a peur. Comment pouvons-nous avoir la paix? Il faut faire la paix d'abord avec Dieu, et cette paix est dans notre cœur. Parce que quand nous avons Jésus-Christ dans notre vie, il habite en nous. Et c'est lui qui nous donne la paix. Et cette paix que nous avons de façon verticale, nous devons la faire jaillir de façon horizontale pour faire la paix avec les autres. Voilà pourquoi c'est une obligation pour chacun de nous ce matin de rechercher la paix, de faire la paix avec les autres. Mais d'abord avec nous-mêmes, d'abord avec soi-même. Quand on est toujours en colère pour de rien, on est prêt à exploser, on ne peut pas faire la paix. Quand on est sans joie, sans sourire, sans douceur, sans humour,
et sans maîtrise de soi. Ça veut dire que pour n'importe quelle circonstance qui est présentée, on est prêt à exploser. On ne peut pas faire la paix. Il faut cultiver la tolérance, la tempérance. Quand les choses arrivent, il faut poser la tête, l'esprit, avant d'agir. Il faut réfléchir. Mais si vous êtes en colère toute la journée, toute la nuit, comment peut-on faire la paix? On est en colère avec son mari, on est en colère avec sa femme, on est en colère avec ses enfants, on est dans le boulot en colère, on est à l'école en colère, dans la rue en colère, à l'église aussi. On est toujours en colère, on ne peut pas vous approcher. Comment peut-on faire la paix? Si vous êtes toujours de mauvaise humeur, les autres ne peuvent pas vous approcher. Il n'y a pas de sourire. C'est Mireille Mathieu dans sa chanson, si j'ai bonne mémoire, qui dit « Quand on n'a rien à donner, donne un sourire pour accueillir un passant, un ami. » Un sourire, ça veut dire beaucoup, ça coûte beaucoup, hein. Il y a un chant qui dit que dans les derniers jours, quand nous aurons à rencontrer Jésus, son sourire nous dira la bienvenue. Son sourire sera pour nous la bienvenue. Donc en Jésus, nous devons avoir la joie. Paul disait à l'église de Philippe, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Et je le répète, « Réjouissez-vous. » Et pourquoi vous êtes toujours dans la tristesse? Pourquoi vous êtes toujours en colère? Avec vos enfants, vous n'avez même pas une seconde pour l'entendre, pour partager son opinion. De cette façon, nous ne pouvons pas être en paix avec les autres. La tâche est très difficile et ça demande beaucoup d'efforts. Et vous savez, notre effort dépend de la toute-puissance de l'Esprit Saint. Si nous n'avons pas la puissance de Dieu, il est impossible de faire la paix avec les autres. C'est étonnant de voir des frères et des sœurs après le culte qui cherchent à fuir les uns les autres pour ne pas se rencontrer à l'église de Jésus-Christ. Et nous parlons de l'amour fraternel. Dans l'épître aux Hébreux, l'auteur dit que il faut persévérer dans l'amour fraternel. Il faut nous aimer les uns les autres avec ardeur. Et alors en fuyant les autres, où est passé le premier amour? En fuyant les autres, avons-nous la paix dans notre cœur? Faisons-nous la paix avec les autres? Est-ce que vous avez déjà trouvé cette paix que l'homme ne peut donner? Vous n'avez pas d'amitié avec votre soeur, avec votre frère, soit de la même famille, soit du même pays, soit de la même famille de Dieu. Dieu ne veut pas la division. Dieu ne veut pas l'inimitié. Dieu, il veut que nous soyons tous les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes membres les uns les autres. Et pourquoi y a-t-il de si grandes divisions? Il y a des frères et sœurs dans l'Église qui sont ennemis, des ennemis jurés, comme on a l'habitude de dire. Ils ne se saluent pas. Et alors on est venu à l'Église, béni soit l'Éternel, vous priez Dieu, et comment? Frère X n'est pas un ami à moi, sœur Y n'est pas un ami à moi, et puis vous, les mains en l'air, béni soit l'Éternel. L'évangile de Jésus-Christ, c'est pas un évangile de division. C'est pas un évangile d'inimitié. C'est pas un évangile de haine, de jalousie. C'est pas un évangile de rancune. C'est un évangile d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Dieu nous a tant aimés, il a donné son fils. Et à la croix. Et que ce que Jésus a subi pour nous, est-ce que c'est comparable à ce que nous subissons pour les autres? Alors, qu'est-ce que Jean-Pierre vous a fait tellement et vous arrivez à un moment, vous ne pouvez pas même le saluer? Après le culte, il est au coin de la porte, vous fuyez jusqu'à la droite pour sortir, pour ne pas le rencontrer, pour dire « Comment vas-tu ?» Mes frères, si c'est comme ça, il n'y a pas d'évangile chez vous. L'évangile tolère, l'évangile aime, l'évangile accepte, et tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez un frère, une sœur avec qui vous ne parlez pas ce matin? Rentrez en vous-même. Pensez à ce que Dieu il a fait pour vous. Pensez à ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Et si il agissait de la même façon que nous, qui serait ici là, présent ce matin? Personne. Mais l'amour accepte tout, l'amour supporte tout. Hein? L'amour ne fait rien de malhonnête. Avec notre moi, notre supériorité par rapport à notre race, notre couleur, notre rang social et notre origine, les autres n'ont aucune valeur sous nos yeux. Pourtant, dans l'Église de Jésus-Christ, aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux, égaux. Mais oui, si nous le répétons, nous devons prouver ça par action. Ici, il n'y a ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, ni riche, ni pauvre. Pourquoi nous ne pouvons pas les prouver à travers notre comportement? Ordinairement et dans la vie et d'Haïti, on dit souvent devant c'est bien, derrière c'est mal. Ça veut dire en face, en présence de Dieu ici là, nous sommes tous frères, sœurs, embrassons. Mais pourtant, dès qu'on sort de la barrière, c'est fini. Cette hypocrisie, Dieu ne prend pas plaisir là-dedans. Si nous aimons en toute circonstance. Nous n'aimons pas pour faire voir, mais nous aimons pour la gloire et une gloire de Dieu. Nous aimons pour obéir à la parole de Dieu. Car qui sommes-nous pour aimer? Nous avons tous le même Père. Nous avons tous la même grâce, le même salut, le même sauveur et la même espérance. Pourquoi nous ne pouvons pas marcher ensemble? Qu'est-ce qui nous empêche? Si nous essayons de déposer quelque part, ce qui nous rend plus que les autres, vous allez voir que la vie spirituelle, c'est une vie facile. Car nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait de nous un homme. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait de nous une femme. Et tout ceci pour sa gloire. Parce que nous ne sommes rien, absolument rien, si ce n'est que la grâce que Dieu nous a faite. La guerre fait rage dans le monde aujourd'hui. Ah, beaucoup de guerres. Et nous en sommes chaque jour les victimes. Les hommes cherchent la paix à tort et à travers, mais c'est peine perdue. Car il n'y a pas de paix sans Jésus. Jamais. Regarde ce qu'il dit dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 1er. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Donc si nous ne sommes pas justifiés, nous ne pouvons pas avoir la paix. Et qui autre que Jésus peut nous justifier? Personne. La justice humaine est longue avant des décisions. Et quand les décisions sont prises, il y a toujours des retombées négatives, des gens qui sont condamnés dans toute son innocence et d'autres qui ne sont pas condamnés, qui sont libres dehors et qui sont des coupables. Ça, c'est la justice humaine. Mais la justice de Dieu, quand Christ nous a déclaré juste, nous sommes justes par la foi. Ce matin, Pasteur Aldo a parlé de liberté. Jésus, il dit, si le Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Ça veut dire, c'est la liberté réelle. Donc, c'est l'Esprit qui habite en nous, qui change tout. Voilà pourquoi Paul dit, ce que nous étions hier, aujourd'hui, nous ne sommes plus. C'est une nouvelle naissance. Selon Philippiens chapitre 4, verset 7, nous ne pouvons pas faire la paix avec les autres si nous n'avons pas la paix du cœur. Et oui, la paix du cœur. Ça nous met dans la joie. Ça nous fait rester tranquille. Hein? Quand nous avons la paix dans le cœur. Si nous sommes scellés du Saint-Esprit, nous avons la paix dans nos cœurs. Ça veut dire qu'il y a un effort. Regardez dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre vie, vous ne pouvez pas avoir la paix. Si vous êtes là ce matin, vous n'avez pas encore le Saint-Esprit dans votre vie, il y a une guerre contre eux. Nous ne pouvons pas avoir la paix sans être scellés du Saint-Esprit ce matin. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. Et au départ de Jésus, il a laissé le Saint-Esprit pour nous rappeler ce qu'il avait dit. Et pour nous montrer et pour nous enseigner. Le jour où nous avons accepté Jésus comme maître et sauveur, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Est-ce que c'est déjà fait chez chacun de nous ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes là ce matin qui n'ont pas encore le sceau du Saint-Esprit? Ça veut dire qu'il ne fait pas la paix avec Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification initiale. La sanctification a trois étapes. Il y a la sanctification initiale, il y a la sanctification progressive et il y a la sanctification finale. La sanctification initiale, nous l'avons le jour même, au moment, à la seconde même où l'action est faite, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur. Et nous sommes sanctifiés. C'est écrit dans Hébreux chapitre 10, versets 14 et 15. Regardons. Hébreux chapitre 10, versets 14 et 15. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Ce matin, nous connaissons tous la valeur d'une attestation. Hein, en France, attestation justificatif, ça coûte beaucoup. Hein. Ici, là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous est scellé pour dire, vous n'êtes plus les gens du dehors, vous êtes des gens de bien. L'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il nous a sanctifiés. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit? Dans Romains, chapitre 15, verset 16, Paul s'adresse à l'église de Rome. Il dit, je vous ai écrit et avec une sorte de hardiesse à cause de la grâce de Dieu, à cause de la grâce que Dieu m'a faite. D'être son ministre de Jésus-Christ, verset 16, parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit, le jour même où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. C'est la sanctification initiale. Pierre nous recommande d'être saints dans toute notre conduite, puisque celui qui nous a appelés est saint. Donc nous devons vivre dans la sainteté pour la gloire de Dieu. Selon 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec. Il faut rechercher la sanctification. C'est une obligation. Notre façon d'agir, notre façon d'habiller, nos comportements, nos réactions, notre mode de vie devrait témoigner notre sanctification progressive. C'est la deuxième étape. La sanctification progressive, c'est quotidiennement. Parce que la nature pécheresse est encore en nous. Nous ne pouvons pas vivre sans péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs et la vérité n'est point en nous. Devant Jésus, on a amené une femme. Les ennemis disent, bon, nous l'avons trouvé en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, il faut la lapider. Jésus, c'est un maître. Ce n'est pas quelqu'un comme les maîtres subalternes. C'est un maître. La femme se présente. Et puis, qui de vous qui n'a pas péché? Qui lance la première pierre? Qui d'entre nous qui allait rester là, hein, pour lancer la première pierre? C'est vous? C'est toi? C'est moi? Personne! Parce que nous avons tous un trou péché dans notre vie. Nous ne sommes pas les modèles. Le modèle, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Puisque nous sommes tous pécheurs, mais des pécheurs repentants. C'est la grâce de Dieu qui nous a donné cette satisfaction ce matin. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas raison de nous ouvrir. Notre vie de sanctification doit être progressive. Chaque jour, nous péchons, demandons à Dieu pardon. Et la vie continue. Tout ce qui est dans le monde aujourd'hui rentre dans l'église. C'est ça le mal. Hein? L'église prêche contre ce qui se passe dans le monde et tout ce qui est dans le monde dans l'église aujourd'hui. Notre façon d'habiller, notre façon de parler, notre style. Qu'est-ce qui fait la différence alors? Il devient difficile de faire la différence entre un membre de l'église aujourd'hui avec un païen. Ils s'habillent de la même façon. Ils se coiffent de la même façon. Le langage, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait la différence? Et quand ils sont ensemble, c'est très difficile pour trouver un ou l'autre qui dit, moi je suis chrétien. Comment peux-tu dire être chrétien? Alors, on est dans le même panier. Il n'y a pas de différence. Notre vie doit être une vie sanctifiée. Nous faisons de la grâce de Dieu une licence. Attention, mes frères et sœurs. Pour faire ce qui nous plaît. Mais pas pour faire ce qui plaît à Dieu. Et alors que nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Dieu avait intimé à Moïse la façon dont le peuple Israël doit vivre. Et si ce n'est la grâce aujourd'hui, comme je l'ai dit déjà, personne ne serait là. Hein? Personne. Regardons ce qu'il dit dans Exode 28, verset 3. Dans Exode 28, verset 3, il dit, « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce son sacerdoce. » Le type de vêtement. Verset 29. Et chapitre 29, verset 37. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras et l'autel sera très saint. Et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. C'est la grâce de Dieu, le sang de Jésus qui a tout purifié aujourd'hui, qui nous a rendus parfaits. Versets 44 et verset 45. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Parce que Dieu n'a pas sa place là où il y a péché, là où il y a saleté. Dieu, un Dieu trois fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Le Seigneur disait à Moïse, ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Là où nous sommes, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons ici. C'est le temple de Dieu. Respect. Propreté. Nous ne pouvons pas dire ce que nous voulons ici. Nous ne pouvons pas pénétrer le temple comme nous voulons, avec des habits décolletés comme nous voulons. Parce que ici, c'est le temple de Dieu. Elle est où la sanctification? Le temple de Dieu doit être gardé propre. Nous ne pouvons pas nous présenter dans le temple de Dieu sans modestie, sans respect, sans crainte qui lui sont dues. Nous nous courbons facilement à la volonté des hommes et nous piétinons la parole de Dieu. Qui a de plus de valeur pour nous? C'est l'homme ou bien Dieu? Donc les efforts sont à déployer chaque jour pour vivre dans la sanctification progressive. Quand les péchés sont confessés, Dieu pardonne. Quand les péchés sont confessés, Dieu, il pardonne. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est compatissant, parce qu'il est lent à la colère, parce qu'il est riche en bonté. Dieu n'est pas comme Jean-Pierre, Dieu n'est pas comme vous, qui garde l'orgueil, qui garde la rancune. Dieu, il pardonne. Et quand il pardonne, c'est fini. F-I-F-I-N-I-N-I. Il pardonne toute l'iniquité. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, Paul nous exhorte de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travailler de mieux en mieux. Ça veut dire ce que nous avons commencé, il faut faire mieux chaque jour. Et Pierre, dans le même sens, il invite à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah, les mercredis soirs, ils sont où? Pour l'étude biblique. Les vendredis soirs, ils sont où pour la réunion de prière? Il faut croître dans la grâce de Dieu. Par la sanctification, voici ce que nous sommes ce matin, mes frères et sœurs. Regardons ensemble. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Peut-être beaucoup de gens connaissent déjà ce passage. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Il dit, vous au contraire, ça veut dire contraire au monde, contraire aux païens, contraire aux choses qui ne font pas plaisir à Dieu. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que vous saviez déjà ce que vous êtes? Ce matin, vous savez que vous êtes un peuple acquis. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Dans une nation sainte, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Non. Après la sanctification initiale, la sanctification progressive, eh bien, finalement, il y a la sanctification finale. Car on ne peut pas passer tout notre temps en classe sans subir un examen pour aller à la classe supérieure. Hein? Non. Notre attente. Regardez ce que Jean il nous a dit concernant la sanctification finale. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2 et 3. Qu'est-ce qu'ils nous dit? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, à Jésus-Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quand nous serons avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de jalousie, il y aura la paix que le monde ne peut donner. Frère, quelle espérance qu'un jour nous serons avec Dieu pour toujours. Fini les guerres, fini les douleurs, fini les souffrances, fini les haïssements, fini les rancunes. C'est le bonheur éternel. Je reprends les titres des deux derniers messages de Pasteur Aldo, c'est un appel à la décision. C'est un appel à la consécration. C'est un appel à la paix. C'est un appel à la sanctification. Que Dieu nous aide à mener une vie de sainteté pour sa gloire jusqu'à son retour. Et qu'il vous bénisse. Amen.